Salut et bienvenue à toi, auditeur, auditrice. Comme tu t'es réveillé ce matin rempli de projets, d'impératifs, la tête plus ou moins farcie par le manque de sommeil, ta journée démarre comme autant de sollicitations auxquelles ce petit jour qui s'annonce seront dévolues. Te rendre à ton travail quotidien, fabriqué de tes mains, composé avec l'angoisse que te renvoie l'épaisseur du monde, ou peut-être y aller le corps plus flottant, rompu à l'imprévu de ce que ces quelques heures d'existence vigile pourront t'offrir. Alors tu bouges, tu réalises tes gestes mécaniques maintes fois répétés, ces impulsions qui s'appellent douche, habillage, brossage de dents, petit déjeuner, ascenseur en panne, en passant le Porsche, alors que la rue s'annonce, il y aura tel et tel à voir, ça et ça, à mettre au clair. Bref, avec tout ça, le bus est à l'approche, un peu loin, il va falloir secouer cette vieille carcasse à leur feu. Tandis que la masse de ton sac encombre le mouvement de sprint de tes jambes et de tes bras, tu te dis que ça devrait le faire. Le bus est là, à l'arrêt, pour encore quelques instants, qui te toise au coin de la rue. Tu y es presque. Tu envisages le marchepied du bus qui se profile, tandis qu'à ce moment, le souvenir d'un courrier hyper important se matérialise. Ne pas oublier, car c'est le dernier délai. C'est ta bouée de sauvetage, ce mail, comme la rampe du bus vers laquelle tu allonges le bras en exerçant une ultime foulée un peu plus aventureuse que les autres. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. À la place de ce bond de cabri que tu espérais, il y a la perception d'une intense douleur, un hurlement qui naît dans ta cheville droite et qui te tétanise de tout ton être. Boitant péniblement à travers le bus bondé, entraînant ce morceau de douleur, de boursouflure violacée qui est devenue ta cheville, tu sens que cette journée et les suivantes ne vont pas se passer comme prévu. Tout ça pour dire cette habitude de se considérer comme plus ou moins bien portant, la croyance chez les personnes qualifiées de valides que ce corps ne va pas les lâcher aujourd'hui. À force de routine, tu perds de vue que ton corps et ses constituants sont bel et bien des structures vivantes, c'est-à-dire caractérisées aussi par une fragilité et une mortalité. Il en va de même des os de l'articulation de ta cheville droite, oubliés dans l'habitude. Dans l'émission précédente, je t'avais exposé à quel point nos os sont des structures dynamiques et plastiques, sensibles et adaptables aux modifications des contraintes qui s'exercent sur elles. Et pourtant, malgré leur apparente robustesse, il existe dans les os des zones de faiblesse, une fragilité constitutive que ton corps assume, jusqu'à l'avoir intégrée dans un mécanisme de réparation. C'est de cela que j'aimerais te parler aujourd'hui. Je voudrais, si tu veux bien, plonger au cœur de cet étonnant paradoxe qui fait de l'os une structure ambivalente, c'est-à-dire profondément solide, mais aussi fragile et réparable. Une unité fondamentalement vivante qui, peu à peu, se révèle progressivement à sa forme de squelette décharné, l'emblème de la finitude et de la mort. Je m'appelle Thomas Becken, j'ai 38 ans, je suis un homme blanc, médecin, et c'est de là, en toute modestie, que je m'adresse à toi, à la radio. Tu écoutes une fable du squelette, épisode 5, Cristal des profondeurs. Jusque-là, je t'avais parlé de l'organisation macroscopique de tes os, ces 206 os qui te constituent, de leur taille et de leur forme variable. Je t'avais décrit leur organisation particulièrement efficace pour supporter des contraintes mécaniques, et notamment cette caractéristique par laquelle l'essentiel de la matière osseuse est habituellement relégué vers la périphérie, vers l'extérieur de l'os, alors que l'intérieur est moins dense, plus léger. Mais quid de cette matière osseuse si résistante et malléable à la fois? Qu'est-ce que c'est au juste? Pour le comprendre, avant de descendre dans les profondeurs de la matière, j'aimerais commencer par t'emmener par un chemin détourné. Cela n'a apparemment pas grand-chose à voir avec ce qui nous occupe, mais j'y tiens. Alors, allons donc ensemble, si tu veux bien, faire un tour sur la terre fracturée.
Que nous considérons les choses du point de vue continental, planétaire, nous devrions nous intéresser aux obélisques qui planent au-dessus de l'ensemble. Les obélisques ont porté des noms différents autrefois, à l'époque où ils ont été construits, mis en place et utilisés, mais nul n'a gardé le souvenir de leur nom ni de l'usage de ces grands dispositifs. Le souvenir dans le fixe est aussi fragile que l'ardoise. À vrai dire, de nos jours, personne ne prête grande attention à ces choses, pourtant énormes, magnifiques et vaguement effrayantes. Des échardes de cristal massives lévitant parmi les nuages, tournant lentement sur elles-mêmes, dérivant le long de chemins aériens incompréhensibles, se brouillant parfois comme si elles n'étaient pas vraiment réelles. Mais peut-être s'agit-il de simples jeux de lumière ? Il n'en est rien. De toute évidence, les obélisques ne sont pas d'origine naturelle. De toute évidence également, ils sont incongrus. Impressionnants, mais inutiles. C'est un des innombrables tumulus d'une des innombrables civilisations détruites par les efforts inlassables de notre Père Terre. Il existe tant de cairns de ce genre de par le monde. 1000 cités en ruine, 1 million de monuments à des héros ou des dieux oubliés, des dizaines de ponts ne menant nulle part. Rien qui mérite l'admiration, affirme de nos jours la sagesse du fixe. Les bâtisseurs de ces antiquités étaient faibles et sont morts comme meurent inévitablement les faibles. Ils sont surtout coupables d'échecs. Les bâtisseurs des obélisques ont juste subi un échec, plus cinglant que la majorité. Les obélisques n'en existent pas moins. Ils jouent un rôle dans la fin du monde et méritent donc notre attention.
Ceci est l'une des premières pages de la série romanesque de l'autrice américaine Nora Keith Jemisin, intitulée Broken Earth, et que la traductrice Michèle Charrier a traduit en français sous le titre « Les livres de la Terre fracturée ». Il y est question d'un rapport particulier qu'ont certains des personnages de la saga avec l'élément terrestre, tellurique, avec la composante géologique de la planète. Ce pouvoir les rend très puissants, mais évidemment très fragiles, et leur force s'accompagne d'une proximité inouïe avec la mort. Bien. Alors maintenant que ces images sont encore bien imprimées dans ton esprit, il va falloir descendre encore un peu plus profondément dans l'os, dans l'ordre de grandeur encore inférieur à l'échelle moléculaire que seuls peuvent sonder les microscopes électroniques, et où les mesures se comptent en Dalton, en mol et en angström. Si tu te souviens de la définition technique que j'avais donnée de l'os en début de l'émission précédente, j'avais mentionné qu'il s'agissait d'un tissu de soutien, c'est-à-dire composé de cellules, ces cellules évoluant dans un environnement particulier. Cet environnement, en histologie, c'est-à-dire dans le terme du discours qui concerne les tissus biologiques, on appelle cela une matrice extracellulaire. Matrice parce qu'elle forme un réseau autour des cellules. Et la particularité de la matrice osseuse, c'est qu'elle est calcifiée, comme on dirait que sont calcifiés les robinets d'une salle de bain. C'est-à-dire qu'on y trouve de la même manière des dépôts de cette substance crayeuse et très solide qui s'apparente au calcaire. Sauf que si le calcaire d'une robinetterie est souvent considéré comme une pollution parce qu'en raison de sa solidité, il bouche et fragilise les conduites, s'agissant de la matrice osseuse, cette même solidité joue un rôle fondamental. Voilà. Involontairement, je viens de lâcher le morceau. Le calcaire est particulièrement coriace et ce n'est pas une révélation. La matrice extracellulaire des os trouve le fondement de sa résistance dans la formation de ces cristaux calciques. Calcaire, calcifié, calcique, c'est une même variation autour d'un constituant fondamental, l'atome de calcium. Ces atomes de calcium ont la propriété de former des structures très résistantes lorsqu'ils sont assemblés à d'autres atomes. En l'occurrence, l'atome avec lequel le calcium développe une forte liaison, c'est le phosphore, ou plus exactement, la molécule de phosphate. Et de la même manière que le calcaire se développe sous forme solide dans ta salle de bain ou ta bouilloire dans un environnement chaud, eh bien les molécules de calcium et de phosphate développent entre elles d'impressionnants réseaux dans l'environnement propice qu'est la matrice extracellulaire des os, lorsque le phosphate et le calcium se trouvent réunis à une concentration très importante. On dit alors qu'ils précipitent, c'est-à-dire qu'ils se solidifient en formant des sels issus de l'assemblage du phosphate et du calcium. Et ces composés phosphocalciques se solidifient sous forme de cristaux, des cristaux d'une matière très résistante appelée hydroxyapatite. Imagine-toi maintenant au plus profond de la matrice osseuse.
Imagine-toi que tu mesures un angstrom, c'est-à-dire un dixième de millionième de millimètre, et que tu considères devant toi un échantillon de matière osseuse. Imagine qu'à tes yeux s'offre à perte de vue une succession de cages dont les barreaux ressemblent à des lianes, entortillées autour de cristaux d'hydroxyapatite. À l'échelle où tu te trouves, ces cristaux d'hydroxyapatite devraient te rappeler d'imposantes structures monolithiques en forme d'obélisque. Chacun de ce qui t'apparaît comme ces obélisques est en fait un empilement de ce qu'en cristallographie, on nomme une maille. Une maille, c'est un assemblage d'atomes, comme ici, la molécule d'hydroxyapatite faite d'atomes de calcium et de phosphate, dont le volume et la forme déterminent une partie finie de l'espace. Le motif cristallin que représente cette maille peut alors, par simple translation, être reproduit à l'infini. En clair, une maille, c'est une sorte de pièce d'un puzzle dont toutes les pièces seraient identiques en forme et en taille. Le cristal est donc un assemblage, un pavage d'unités fondamentales que sont les mailles, juxtaposées de façon identique, comme le carrelage d'une salle de bain. Ces carreaux, ces mailles, peuvent prendre des formes diverses, des cubes, des losanges, des prismes pour les plus simples. Dans le cas de l'hydroxyapatite qui nous occupe, chaque maille a la forme d'un volume à six côtés surmonté de deux pyramides, un hexagone dipyramidal. Ce qu'on appelle donc communément un cristal d'hydroxyapatite, c'est donc le pavage complet de ces hexagones dipyramidaux collés les uns aux autres, et qui, vu à l'échelle microscopique qui est la tienne actuellement, constitue ces imposants obélisques. Un cristal d'hydroxyapatite, un obélisque, mesure 400 angstroms de long, c'est-à-dire 40 millionièmes de millimètre. C'est le minerai cristallin qui solidifie ta matière profonde et qui te fait tenir debout. Or, ces imposantes structures cristallines sont, comme je te l'ai dit tout à l'heure, enserrées dans des longs rubans qui forment des cages autour des cristaux. Ces rubans sont en fait constitués d'un composant fondamental de ton organisme et qui porte le nom de collagène. Je laisse l'histoire du collagène pour une autre fois, on aura le temps d'y revenir, mais souviens-toi que globalement, le collagène, c'est la protéine la plus abondante chez les mammifères dont vraisemblablement tu fais partie, auditeurice. 30% de ton poids total, c'est du collagène. Et il en existe plein de sortes différentes, au moins 15 grands types dont chacun est impliqué dans tous les tissus qui servent de soutien ou de cloison. Le collagène de la matrice osseuse, c'est le collagène dit de type 1, et qui s'organise comme tous les collagènes en une sorte de tresse de protéines, qui sert à la fois de tuteur et de cadre pour soutenir les cristaux calciques d'hydroxyapatite. Exactement comme une vigne sur une treille. Plant a kiss on my shoulder. In the heart of October, I wish that I had loved you with all I had. My ego kept my head slow, my breathing, and left the purple flowers in your hand. Stop this heart, 'cause I don't need it. Just another stranger in the night. Just another stranger in the night. Pour que le tissu osseux, bien qu'il soit largement minéral, puisse garder des possibilités de remodelage, de plasticité et de réparation, il faut bien qu'à un moment, la matrice osseuse soit localement détruite puis reconstruite suivant un autre plan plus adapté. Et le procédé utilisé est somme toute assez brutal, comme tu vas le voir. Faire des travaux d'aménagement dans un os, c'est un peu l'équivalent pour nous humains de creuser un tunnel sous une montagne ou une prison. C'est un travail d'équipe. En l'occurrence, les deux corps de métier impliqués sur le chantier sont ceux de deux types cellulaires différents. D'un côté, il y a les ostéoblastes, avec un B, comme bâtisseur. Et de l'autre côté, il y a les ostéoclastes, avec un C comme casseur. D'abord, il y a les artificiers, les destructeurs. Il s'agit des ostéoclastes. Clast, de clastos en grec, cassé, brisé, comme dans iconoclaste, le casseur d'icônes. Ces ostéoclastes sont des cellules géantes qui proviennent de la fusion de plusieurs cellules souches qui ont, à un moment de leur différenciation, mis en commun leurs composants cellulaires. Cela aboutit à des cellules monstrueuses, gigantesques, possédant parfois jusqu'à 50 noyaux. Figure-toi l'ostéoclaste comme une sorte de méduse flasque qui, une fois sur le site à démolir, va se fixer à la matrice osseuse en y adhérant comme une ventouse, en l'englobant de manière complètement étanche. Ensuite, l'ostéoclaste plisse la partie de sa surface qui est au contact de la matrice, de façon à augmenter la surface en contact, et c'est à ce moment-là que le carnage commence. Imagine la masse monstrueuse de l'ostéoclaste qui va envoyer une myriade de petites vésicules remplies d'enzymes diverses et possédant à leur surface de petites pompes à protons. Lorsque ces vésicules viennent fusionner avec la membrane de l'ostéoclaste qui est au contact de la zone de résorption, c'est-à-dire le chantier hermétiquement clos, eh bien les enzymes se déversent sur le chantier et les pompes à protons se retrouvent orientées dans cette même direction. Alors les pompes à protons se mettent à l'ouvrage, expulsant vers le compartiment de résorption osseuse un maximum de protons dans ce petit compartiment, jusqu'à ce que son pH atteigne une moyenne de 4, soit donc une acidité telle que les cristaux d'hydroxyapatite sont dissous, leur liaison tout bonnement pulvérisée. De leur côté, les enzymes déversées au contact de la zone de résorption, du champ de bataille si tu veux, ces enzymes portent des noms très éloquents. Protéase, collagénase, dont la profession est de digérer complètement les fragments organiques de la matrice osseuse. À savoir essentiellement le collagène qui en constitue la trame, jusqu'à ce qu'il n'en reste que poussière. Une fois le carnage terminé, une fois que ce bain de décoction acide qui vous rongerait les os a détruit tout ce qui pouvait l'être de la matrice osseuse, il n'y a pas de bonde ou de stérpute pour vider tout ça aux égouts. Alors les petits résidus, les acides aminés, les résidus protéiques du collagène, le phosphore, le calcium, eh bien tout ça est récupéré par l'ostéoclaste par endocytose. Comme si l'ostéoclaste emballait toutes ces dégradations dans un sac de membrane cellulaire et l'ingérait pour l'expulser par l'autre pôle de la cellule, dans le liquide extracellulaire dont les composés in fine passent dans le sang. Et qu'advient-il alors de ces fragments ? Ça, je le garde pour plus tard, si tu veux bien. Et puis il y a l'autre équipe, celle des constructeurs, des bâtisseurs, l'équipe des cellules qui synthétisent la matrice osseuse, qui produisent des germes d'os, ce qu'en grec on appelle blasto. Blasto, le germe, le bourgeon. Il s'agit des ostéoblastes. Tu dois imaginer que, hormis au cours de la croissance de l'os, la vitesse de formation est la même que celle de la résorption de l'os, ce qui fait que la quantité d'os reste toujours constante. En général, les ostéoclastes s'attellent à détruire l'os durant 3 semaines. Ils arrivent en groupe, en amas, et sapent l'os en y creusant un tunnel qui peut atteindre plusieurs millimètres de long. Une fois le tunnel terminé, les ostéoclastes disparaissent et laissent le chantier aux ostéoblastes, beaucoup plus petits, qui viennent repeupler le tunnel. Et pendant plusieurs mois, les ostéoblastes s'appliquent à tapisser ce tunnel de couches successives de matrice osseuse. Une couche que recouvre une autre couche, que recouvre encore une autre couche, etc. Au final, c'est comme cela que sont créés ces canaux dits de Havers, ainsi que les cylindres d'os concentriques qui les entourent. À la différence des ostéoclastes qui disparaissent, qui se suicident une fois leur travail terminé, les ostéoblastes se retrouvent forcément piégés dans la matrice de l'os qu'ils sécrètent eux-mêmes. À partir de ce moment, cela revient à considérer que les ostéoblastes s'attachent à construire autour d'eux, méthodiquement, les petites alcôves de matrice osseuse dans lesquelles ces cellules resteront murées jusqu'à la fin de leur jour. Abandonnant dès lors toute idée de mouvement, d'évasion, de migration, elles tressent patiemment la matrice osseuse de l'os. Il en va de cette matrice comme d'un ciment, initialement souple et malléable, qui s'avère une fois sec et finalisé, posséder les propriétés d'une structure rocheuse. Ces cellules, qui ne sont déjà plus des ostéoblastes, ont alors tendance à émettre des prolongements, à étendre leurs extrémités sous forme de longues extensions fines qu'elles projettent dans toutes les directions à travers les travées osseuses, tandis qu'elles poursuivent autour d'elles la construction des logettes dans lesquelles elles se constituent comme prisonnières. Leurs prolongements cellulaires se ramifient dans l'os, puis s'étendent jusqu'à entrer en contact avec d'autres prolongements d'autres cellules du même type. Au final, celles qui portent désormais le nom d'ostéocytes deviennent quiescentes, silencieuses, à l'écoute. Il finit par en émaner une vision vertigineuse. Dans les microscopiques logettes minéralisées de la masse osseuse définitive, apparaissent ça et là, tapis au fond de ces minuscules cavernes, des créatures touffues, dont les nombreuses pattes grêles transpercent les cloisons. Ces ostéocytes, volontaires emmurés ad vitam, semblent s'être bel et bien transformés en d'impressionnantes araignées recluses. Ces ostéocytes, je l'avais abordé la dernière fois, ce sont elles qui sont sensibles à toutes les variations de pression et de tension qui s'exercent sur la zone osseuse dont elles ont la charge. Grâce à des détecteurs, ce qu'on appelle des mécanorécepteurs, situés au niveau de leurs extrémités, elles sont à même de pouvoir analyser si la structure de l'os à leur portée est suffisamment adaptée ou si une refonte est nécessaire. Par ailleurs, les jonctions que les ostéocytes entretiennent avec leurs pairs servent également à faire circuler ce genre d'informations. Résultat, si l'os est soumis à de fortes contraintes, il s'épaissit, et inversement. C'est pourquoi les os des personnes ayant une importante activité physique sont en général plus lourds que la moyenne. exclusion faite des spationautes, astronautes et autres sportifs de la pesanteur qui ne sont soumis à aucune contrainte et dont les os s'amincissent, car aucune pression ne vient stimuler les ostéocytes. Plus simplement, si l'un des os de la base de ton pied, un des métatarsiens, est cassé suite à cette entorse si douloureuse que j'évoquais dans mon introduction, et si, comme il est probable, l'urgentiste de garde te confectionne un plâtre en t'interdisant de prendre appui, il existe dès lors un risque que cette absence de mise en charge fasse perdre une importante densité osseuse au niveau du membre concerné. On a vu par le passé des membres inférieurs plâtrés, qui, à défaut d'être utilisés, perdaient jusqu'à 30% de leur masse osseuse, ce qui les rendait encore plus fragiles. C'est pourquoi on essaie habituellement de faire reprendre appui assez rapidement sur le membre blessé, mais évidemment, uniquement si une telle chose est possible, sans accroître la blessure. J'en viens maintenant à ce qui se passe après le choc, après ce craquement si douloureux envisagé en début d'émission. Je t'ai déjà présenté les protagonistes, les ostéoblastes, bâtisseurs, les tunneliers ostéoclastes, les cellules araignées recluses, la matrice de collagène de type 1 et les cristaux phosphocalciques, appelés hydroxyapatites. Lorsqu'une fracture ou une fissure se produit, les cellules situées au voisinage de la fissuration se mettent à mourir. Dès lors, l'ensemble des ostéocytes adjacents ne reçoit donc plus le signal continu envoyé en permanence en temps normal par les ostéocytes émanant de la zone en question. À la place, les ostéocytes en train de mourir produisent et envoient un signal sous la forme d'une molécule particulière qui s'appelle le rank ligand. Ce rank ligand est capté par les cellules de l'environnement médulaire et il permet la fusion et la différenciation de ces cellules souches en ostéoclastes. À ce moment, c'est le travail de sape qui commence. En creusant, les ostéoclastes mettent à jour des molécules marqueurs, des facteurs de croissance qui viennent stimuler les futurs ostéoblastes et mettent fin du même coup à la génération des ostéoclastes. Du coup, ce sont les ostéoblastes qui prennent le relais, produisant couche par couche une matrice de collagène, l'ostéoïde, dans laquelle viendront dans un deuxième temps s'agglomérer les cristaux d'hydroxyapatite pour former l'os final. La durée de régénération d'un os fini prend en général 4 mois, quand le travail de sape des ostéoclastes, ce qu'on appelle l'ostéolyse, dure environ 12 jours. Tout dépend de la taille de la lésion. Enfin, tu dois savoir qu'à tout moment, même en l'absence de fracture majeure, l'intégralité de tes os est le siège d'un remodelage. Et pas qu'un peu. Il y a en permanence 1 million de sites de remodelage actifs dans tout ton squelette, depuis le haut de ton crâne jusqu'à la pointe de tes orteils. Ce qui aboutit à un renouvellement de 10% de ta masse osseuse tous les ans. Tu ne trouves pas que tout cela ressemble un peu à une organisation militaire, un commandement, des messagers, des troupes, un champ de bataille, bataillons et rangs serrés, des morts au combat, des cellules sacrifiées, des cellules kamikazes. Je me surprends moi-même à énoncer ces faits physiologiques de cette façon martiale, moi qui suis d'habitude si peu porté sur la chose guerrière. Mais c'est là, à mon grand regret, la seule manière que je connaisse de raconter cette histoire. C'est le seul narratif que j'ai de cet épisode de cicatrisation et de remodelage cellulaire, car c'est celui qui, durant mes études, m'a été enseigné, et à ce que j'ai récemment pu voir, continue de l'être dans les documents de référence actuels. N'es-tu pas ému par ces récits de sacrifices et de commandements? Ces cellules soumises à l'autorité d'un chef, d'un messager, d'une hormone ou d'un rancligan? Ne ressens-tu pas un trouble devant l'abnégation de ces formidables ostéoclastes qui, d'un coup d'un seul, se font harakiri une fois leur rôle terminé? Par ces ostéocytes dégénérant seuls, emmurés dans leurs morceaux d'os cassés, doit-on y voir une glorification du comportement de soumission, de l'abnégation, de la discipline martiale et militaire? C'est peut-être un peu excessif, mais à l'annonce de toute cette bonne volonté, cette négation pure et simple de la moindre individualité cellulaire, il me vient une pensée. J'ai l'impression de voir poindre dans ce récit une sorte de société utopiste. Pas plus que cette histoire ne fait de place pour les cellules en tant qu'individus, individus dont la vie importerait, je ne trouve pas non plus dans ce récit d'individualité tutélaire. Je ne vois pas ici de dictateur, de despote, de roi ou d'empereur, de père de la patrie qui sortirait du lot en une figure autoritaire. Il me semble que plutôt qu'un type ou une structure qui aurait un ascendant sur les autres cellules et sur les autres tissus, c'est l'utilité et la fonctionnalité qui semble être ici le souverain bien, la cause pour laquelle on est prêt à mourir. Un ostéoclaste, si fier soit-il, a fini son travail de sape, il meurt. Un ostéocyte se trouve emmuré dans un segment d'os fracturé, il meurt. Il y a dans ce récit d'un fait scientifique aussi anodin que celui de la réparation d'une fracture, il y a là comme une volonté de laisser entendre combien la société des cellules, ces cellules qui nous composent nous-mêmes, combien cette société est fondamentalement dénuée d'intérêts individuels. De montrer à quel point son sens du devoir et son obéissance sont poussés au profit de l'utilité collective. Car si l'on pousse la logique, le résultat d'un tel comportement, in fine, n'est rien de moins que notre viabilité à nous-mêmes, en tant qu'humains. Le fait que tu puisses entendre et comprendre ce que je suis en train de baragouiner serait donc immédiatement dépendant du comportement et de la haute abnégation de tes cellules. Dès lors, faut-il y lire un message, une sorte d'injonction qui voudrait que nous nous comportions nous aussi, toi, moi, individus sociaux, en suivant l'exemple de nos cellules? Ou pour parler plus clairement, un comportement cellulaire considéré comme naturel est-il forcément un exemple à suivre du fait même qu'il nous permette d'exister? Je ne tenterai pas de répondre à cela aujourd'hui, et d'ailleurs j'imagine que tu as aussi une petite idée de ta réponse. Cela nécessite toutefois de revenir sur le terme de « naturel ». Qui écrit ces récits? Qui narre ces faits scientifiques? Qui les valide? La communauté scientifique, la crise du Covid l'a montré, ne parle pas d'une seule voix. Elle n'est pas univoque. Il n'empêche que certaines hypothèses, certaines explications sont plus étayées, plus promues, plus diffusées. Et je ne joue pas ici la carte complotiste. Les narratifs scientifiques qui sont largement partagés sont promus généralement en toute bonne foi. car ils sont plus fédérateurs, car ils permettent une globalisation, un rattachement plus simple et élégant à d'autres concepts connexes. Et aussi parce qu'il s'agit d'énoncés plus aisés à comprendre et à admettre dans notre époque, c'est-à-dire dont la logique nous paraît plus valable, car mieux partagée. Dans le cas qui nous occupe, la métaphore guerrière de ce fait scientifique, celle de la soumission des cellules osseuses à une autorité, cette métaphore est une image qui, si elle n'est pas à proprement parler partagée, est du moins compréhensible par tout un chacun, ce qui la rend presque insidieusement légitime. Et partant, la narration d'un fait scientifique est donc l'illustration d'une manière de penser, d'une conception politique du monde, qui s'applique aussi, évidemment, à la narration que l'on fait des phénomènes pensés comme naturels, c'est-à-dire comme non culturels et non falsifiables car isolés de la culture. C'est là un des aspects du dogme millénaire du naturel contre le culturel, de l'authentique contre l'artificiel. La philosophe et biologiste américaine Donna Haraway, pour ne citer qu'elle, qui travaille dans ces deux domaines aujourd'hui si étanches de la philosophie et de la biologie, a proposé d'élégants et très utiles concepts sur ce sujet, qui pour la plupart se rattachent au langage et à la production de savoir. Dans une précédente émission, j'avais déjà évoqué l'usage qu'elle fait de l'acronyme SF. SF, un sigle qui de façon généralisée permet de récupérer tous les narratifs visant à expliquer en langage une hypothèse ou une théorie scientifique à quelque niveau que ce soit. SF comme science-fiction, comme fabulation spéculative, speculative fabulation, comme fait scientifique, science fact. Un SF est d'abord et avant tout un acte d'imagination. De la même manière, Donna Haraway a construit le mot-valise « nature-culture » en un seul mot, afin de souligner à quel point ces deux entités sont consubstantielles et interdépendantes. L'interprétation d'un fait scientifique comme n'importe quel fait d'imagination est tributaire de notre conception du langage utilisé pour l'énoncer et de la dimension culturelle que ce langage recouvre, mais aussi de la forme et de la figure que le réel étudié nous propose. Et en ce sens, la théorie scientifique, sous ses grands airs d'objectivité factuelle, de loi naturelle, est bien un fait nature-culturel.
La science d'Humboldt, c'est une chose, la poésie en est une autre.
L'écrivain américain Henry David Thoreau, 1850.
Le poète d'aujourd'hui, malgré toutes les découvertes de la science et les connaissances accumulées par l'humanité, n'a aucun avantage sur Homère. Où est-elle la littérature qui fait s'exprimer la nature ? Ce serait un poète celui qui pourrait mettre à son service les vents et les cours d'eau afin qu'ils parlent pour lui, celui qui riverait les mots à leur sens primitif, comme les fermiers au printemps enfoncent les poteaux que le gel a soulevés, celui qui ferait dériver ses mots aussi souvent qu'il les emploie, les transplanterait sur sa page avec de la terre adhérant à leurs racines. Celui dont les mots seraient si vrais, si frais et si naturels qu'ils sembleraient s'épanouir tels les bourgeons à l'approche du printemps, bien qu'ils suffoquent à moitié dans une bibliothèque entre deux feuillets moisis. Oui, afin qu'ils y fleurissent et y fructifient, pour le fidèle lecteur, en sympathie avec la nature environnante. Je ne trouve à citer aucune poésie qui exprime avec justesse cette aspiration vers le sauvage. Abordée sous cet angle, la meilleure poésie reste domestiquée. En aucune littérature ancienne ou moderne, je n'arrive à trouver un récit qui me satisfasse sur cette nature, avec laquelle je suis précisément en communion. Vous percevrez que je demande là une chose que nulle époque augustienne, ni élisabéthaine, en bref, que nulle culture ne peut offrir.
Mais j'en reviens à nos vieux os, leur production, leur destruction. Je t'ai dit que les mécanismes de destruction et de reformation de l'os étaient sous contrôle de médiateurs moléculaires, comme le rank ligand, qui, une fois produit après un traumatisme osseux, permettent de faire que des cellules souches quiescentes se différencient et deviennent des cellules actives, comme les ostéoclastes. Mais il n'y a pas que les traumatismes osseux qui sont à l'origine de la décision de ces travaux d'aménagement osseux. Il y a aussi toute une gamme d'hormones qui peuvent décider de la destruction osseuse ou de sa formation. Car tu dois garder en mémoire que l'os n'est pas qu'une structure de soutien. L'os est aussi une source, une véritable mine de calcium, de phosphore, de métaux divers et de collagène. Et ces substances, elles aussi, ont bien d'autres rôles à jouer à part celui de rester figé au fin fond de ton squelette. Dans un épisode précédent, j'avais déjà évoqué le phosphate, cette molécule constituée de phosphore et d'oxygène, et dont le rôle est si important dans tous les mécanismes chimiques qui impliquent le recours à une petite dose d'énergie, sous forme d'adénosine triphosphate. L'adénosine triphosphate, l'ATP, est, comme je te l'avais dit, l'unité énergétique fondamentale de l'organisme. Et il faut des quantités substantielles de phosphate pour générer une réserve d'ATP disponible à tout instant et partout. L'os, et en particulier les cristaux d'hydroxyapatite, font donc figure d'un lieu de stockage très approprié pour entreposer les réserves de phosphate. Encore une fois, vois ce champ lexical marchand, stock, réserve, ressources, exploitation, mise en circulation, etc. Je ne cesserai jamais de m'en émouvoir, à quel point ce vocabulaire imprègne jusqu'à l'os ma vision de la physiologie et la manière dont je l'utilise tous les jours. De la même manière, la concentration du calcium dans le sang est très finement régulée et soumise à l'activité d'hormones comme la parathormone, sécrétée par les glandes parathyroïdes, ou la calcitonine, sécrétée par les cellules C de la thyroïde, et dont l'action est de promouvoir ou de diminuer la résorption osseuse pour faire en sorte que le calcium libéré dans le sang se stabilise autour d'une valeur moyenne. La calcitonine tend à diminuer l'action des ostéoclastes et à diminuer du même coup la quantité de calcium dans le sang. La parathormone, elle, joue le rôle inverse en augmentant le grignotage osseux et en libérant le calcium dans le sang. Et puis il y a aussi l'effet de la vitamine D, mais son action et son métabolisme sont si particuliers que je préfère les réserver pour une autre fois. Ce que tu peux retenir pour l'heure, c'est qu'en gros, il y a un équilibre entre la concentration de calcium dans le sang et le degré de résorption osseuse. Et que si cette relation est déséquilibrée, la constitution de l'os devient problématique. L'affection osseuse peut être la plus célèbre de toutes, et celle qui s'appelle ostéoporose. L'origine est multiple, mais le mécanisme principal, c'est un déséquilibre entre les facteurs qui encouragent l'action des ostéoblastes et celle des ostéoclastes. Ici, les ostéoclastes ont tendance à grignoter plus d'os que les ostéoblastes n'en peuvent produire, ce qui aboutit à des os de plus en plus poreux, pleins de trous et donc particulièrement fragiles. Le nom lui-même semble déjà sonner comme un échec. Porose, comme morose, comme tristesse. Intuitivement, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais il suffit que je pense au mot ostéoporose, et magiquement, apparaît un cortège de termes comme âge, chute, fracture, fragilité, hôpital, maison de repos, isolement, et j'en passe. S'il est bien une maladie qui nous renvoie à notre finitude de mortel, c'est assurément celle-là, qui insidieusement marque du sceau de la flétrissure la partie la plus solide de notre corps. We're in deep, me and you. This thing of us through and through. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you. Flame is lit. God.
himself can't deny. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you.
Must admit, I've done wrong. Same old shit, different song. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you.
Velvet shoes, same old smile. Self-respect's been gone a while. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you.
Bad time, oh well. Say dancing how I
shallow grave, roses grew. This thing of ours we know is through. We all do things we shouldn't do. I ain't gonna stop loving you.
Ain't gonna stop loving you.
Ain't gonna stop loving you.
Cet assemblage que je t'ai décrit au début, cette maille cristalline insoluble, représente donc ce qui en toi est de l'ordre du minéral. Si l'os est comme tout ce qui existe, soumis à la corruption, à la destruction, à l'entropie, il l'est à une échelle de temps de l'ordre de l'ère géologique, quand le reste de ce qui te compose est soumis en général à une durée de l'ordre de l'organique. C'est là, me semble-t-il, le nœud de cet étonnant paradoxe temporel dont l'os est la partie visible. Si au royaume des aveugles les borgnes sont rois, alors dans notre royaume d'éphémères créatures organiques, nos os ont le pouvoir de nous amener jusqu'au granitique et à l'adamantin. Par son essence minérale, l'os porte notre part de permanence, d'immortalité toute relative. En d'autres termes, les os sont notre caution géologique, la plus évidente portion de ce qui nous relie à la Terre, et par conséquent, la seule qui subsiste de nous, lorsqu'une fois mort, nous rejoignons les couches géologiques. La pierre en nous, ce cristal à la fois massif et fragile, minéral dans sa gangue organique, c'est à tout cela que me renvoie cet autre extrait de la Terre fracturée.
La sirène des séismes se déclenche, assourdissante dans la tour qui se trouve juste derrière elle. Sur les quais en contrebas et dans les rues alentour, les gens se sont mis à courir. Sans la sirène, on entendrait probablement des cris. Ce n'est toutefois pas ce qui finit par la tirer de sa transe. Ce qui l'en tire, c'est la pluie d'écume qui balaie brusquement les quais, suivie d'une ombre qui obscurcit la moitié du port où elle se trouve. Elle se retourne. Il sort lentement de l'eau en se débarrassant des restes de sa gangue de terre, en commençant à tournoyer et à bourdonner. Un obélisque. Celui qui monte dans le ciel devant elle domine son champ de vision et ses pensées. Parce qu'il est énorme, quoique pas encore entièrement à l'air libre. Son rouge profond évoque le grenade. Sa forme, une colonne hexagonale au sommet pointu irrégulier. Il paraît tout à fait solide. Un géant qui continue à s'élever en tournoyant. Un géant qui a un problème. Son ascension permet de s'en rendre compte. À mi-longueur, des fissures réduisent à néant sa pureté cristalline. Énorme, hideuse, noirâtre. Comme si un contaminant du fond marin s'y était infiltré au fil des siècles que l'artefact a dû passer dans la baie. Leur ligne, déchiquetée, dessine une toile d'araignée, où Siennit sent vaciller et bégayer le bourdonnement. car des forces incompréhensibles s'affrontent aux endroits endommagés. Le centre de la toile est occupé par un caillot quelconque, petit. Elle plisse les yeux. Penchée sur la balustrade, le cou tordu pour suivre l'ascension de la tache minuscule de plus en plus haute, l'obélisque pivote davantage, à croire qu'il veut lui faire face. Son sang gèle dans ses veines quand elle prend conscience de ce qu'elle voit. Un être humain. Inclus dans la chose, comme une mouche dans l'ambre, les membres écartés, parfaitement immobiles, les cheveux ébouriffés, figés. Le visage a beau lui être indiscernable. Elle imagine les yeux écarquillés, la bouche ouverte sur un hurlement. Elle s'aperçoit alors qu'elle distingue une curieuse marbrure le long de la silhouette. Une meurtrissure, noire, intégrée au rouge sombre de l'obélisque. Le scintillement du soleil lui fait comprendre que les cheveux sont pâles, ou du moins assez translucides pour s'évanouir dans le grenat alentour. Cette vision lui évoque aussi quelque chose qu'elle sait peut-être, elle qui a fait partie de l'artefact un court instant. Car c'est de lui que venait le pouvoir, mais elle ne veut pas trop s'interroger à ce sujet, parce que, terre cruelle, elle ne peut pas intégrer ça. La certitude est là, dans son esprit, impossible à repousser malgré l'envie qu'elle en a. Lorsque la raison est confrontée à l'impossible, encore et encore, on ne peut que s'adapter. Voilà pourquoi elle admet qu'elle contemple un obélisque brisé qui a reposé au fond du port d'Alia, à l'insu du monde entier. Le père Terre sait combien de temps. Elle admet que ce qui est emprisonné en son cœur, ce qui a brisé cette chose mystérieuse, massive, magnifique, n'est autre qu'un mangeur de pierre. Mort.
Il y a donc la maladie et la vieillesse, auxquelles les os sont eux aussi sujets. Et puis la mort. Nous y voilà. Difficile de parler de physiologie sans aborder le sujet, une fois, de temps en temps. C'est un topos, un lieu commun. Les illustrations ne manquent pas. Le vivant face à la mort qui finit tout. La mort ultime ligne de toute chose, comme disait le poète latin Horace. En particulier, la représentation d'un corps humain en état de décomposition, souvent figuré par un crâne au sourire figé, glissé plus ou moins en évidence dans un tableau, on appelle ça une vanité.
J'ai regardé toutes les œuvres qui se font sous le soleil. Eh bien, tout est vanité et poursuite du vent.
Le Moyen-Âge a été une époque riche en calamités, guerres de 100 ans et pestes. Et il fait historiquement figure d'une période marquée par le glas, saignée. Sans doute ne l'était-elle pas plus que ne l'est notre époque actuelle, par ce déchaînement de violence de par le monde. Mais l'absence de médecine, d'une médecine qui serait considérée actuellement comme efficace, a fait de cette période l'exemple caractéristique de la soumission de l'humanité à la figure de la mort. La mort qui met tout le monde d'accord, du pauvre au prince, c'est la grande leçon d'égalité du peuple.
La terre est égale à chacun, par tous les pays et provinces. Aussitôt fait pourrir les princes que les corps du pauvre commun.
Il y a donc les vanités. Et puis, il y en a une représentation particulière qui s'appelle la danse macabre. La danse macabre, c'est une figure inventée à la fin du Moyen-Âge, durant les grandes pestes, au cours desquelles des êtres de tous âges et de toutes conditions tombaient comme des mouches, sans distinction de genre, de classe ou de privilège. On entassait les cadavres à la va-vite, dans des cimetières trop petits qu'il fallait régulièrement déménager, la mort dans l'âme, sachant que quiconque touchait les dépouilles pestiférées s'exposait directement à une contamination, et donc à un risque de mort imminente. Les cimetières étaient alors disposés en pleine ville, et leurs palissades étaient ornées de fresques et de graffitis, exposés aux yeux de la population. C'est dans ce contexte qu'est née la première danse macabre. Elle apparaît au XIVe siècle, dans l'une de ses fresques, sur le mur du plus grand cimetière parisien de l'époque, le cimetière des Innocents. Sur cette fresque, la danse macabre était figurée par une quinzaine de scénettes mettant en scène la mort dans ses représentations conventionnelles de squelettes. Une mort dialoguant à chaque fois avec un couple de figures caractéristiques de l'époque. Le pape et l'empereur, le médecin et l'amoureux, etc. C'est la danse au sens médiéval du terme. La danse avec un C, qui ressemble à une farandole, une sorte de procession guidée par une mort sautillante et narquoise, et dont l'issue est irrévocable. Ce qu'il y a de fascinant dans cette danse macabre, ce n'est pas tant la confrontation entre la mort et celui ou celle qui le sera bientôt, mais c'est surtout que cette confrontation n'est plus figée. Elle est le siège d'un échange expressif. La mort et la vie communiquent en parlant, en dansant, en bougeant. La séparation jusque-là hermétique entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas devient poreuse. C'est le paradoxe de la mort qui danse. Nos os nus, nos os dépouillés de tout ce qui les habille de pourrissable. C'est notre part minérale qui persiste à s'animer, à s'élever malgré tout, tel le cristal géant surgi de sa gangue de terre fracturée. En conclusion de ces deux émissions consacrées à la physiologie osseuse, je repense à ce poème très célèbre de Pierre de Ronsard dont j'avais glissé un extrait en ouverture de l'épisode précédent. Ce poème n'est en fait rien d'autre qu'une variation sur le thème de la vanité, sauf que là, c'est le poète lui-même qui est déjà le squelette.
Je n'ai plus que les os. Un squelette, je semble, décharné, dénervé, démusclé, dépulpé, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Je n'ose voir mes bras de peur que je ne tremble.
Et puis surgit alors une formule très classe.
Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, ne me sauraient guérir. Leur métier m'a trompé. Adieu, plaisant soleil, mon œil est étoupé.
Étoupé, comblé de suie, de charbon, autrement dit, rendu obscur, opaque. On touche du même coup là à une sorte d'évidence, vieille comme le monde, qui sous-entendrait que là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie, comme dans un caveau. C'est inexact, bien entendu, mais quand même, il semble y avoir là quelque chose qui mérite, pour le moins, d'être éclairci. Alors quelle est donc la nature de ce lien, de ces liens? Sur quoi repose cette sorte d'accord tacite entre ton corps vivant et l'effet de la clarté du jour? Ça, c'est ce que je tenterai d'aborder, j'espère le plus clairement possible, au cours d'une prochaine émission. Voilà, tu viens d'écouter une nouvelle fable du squelette, et je t'en remercie. Les textes de cet épisode ont été lus par Jamie Diallo. Merci aussi à Olivia Arduy pour sa précieuse documentation concernant la danse macabre. Tu pourras retrouver toutes les références de la bibliographie et des extraits sonores que j'ai utilisés ici, sur la page de l'émission à l'adresse radiopanique.org. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, bon week-end. Et j'espère à bientôt.